Mercredi 30 mars 2011, La Friche et l'école d'architecture de Marseille invitaient Gilles Clément, célèbre paysagiste, créateur des jardins du musée du Quai Branly à Paris et auteur de nombreux ouvrages comme Le Jardin en mouvement aux éditions Sens et Tonka.
Et là, il y a des hectares qui sont passés en friche. Voilà, je suis content d'être ici à cause de ce mot-là, parce que c'est très important la friche.
Théoricien engagé, Gilles Clément nous invite à regarder de notre œil le paysage qui nous entoure et imaginer le jardin en mouvement. Un jardin qui laisserait s'exprimer la nature elle-même, au-delà de notre incessant désir de la maîtriser.
C'est ça le tiers-paysage. C'est ce paysage qui accueille par fragments une diversité qui est chassée de partout ailleurs. Le peu d'espace réservé aux espèces qui n'ont pas place ailleurs, venez là. C'est ça le tiers-paysage.
S'intéressant au monde agricole et aux contraintes économiques qui façonnent nos paysages de demain, il donnait une conférence sur le paysage du désendettement. Voici un entretien réalisé avec Gilles Clément, dans lequel vous pouvez entendre des extraits de la conférence. Gilles Clément, bonjour.
Bonjour.
Le désendettement dont vous parlez ce soir est celui des agriculteurs et des exploitants agricoles. Comment votre réflexion autour de la question du désendettement s'articule avec vos précédents travaux sur le jardin planétaire, le jardin en mouvement et le tiers paysage?
C'est-à-dire que je pense que n'importe quel paysage qui est marqué par l'homme est tributaire d'une économie particulière. À une certaine époque, il fonctionnait dans une économie qui correspondait à ce qu'on appelle un peu aujourd'hui l'économie réelle. L'économie réelle, depuis qu'on a inventé une économie dérégulée, qui est seulement, elle, liée à la finance, et qui n'est pas forcément en prise avec l'économie réelle. Une économie où il y a une production qui correspond à un travail, ce produit correspond à un marché, etc. Bon. Et ça fabrique un paysage. Il se trouve que depuis que... C'est pas très vieux, hein, c'est vers les années 80 à peu près. On a une totale dérégulation. On assiste à quelque chose d'autre qui est une forme de paysage qui est déterminé par une économie artificielle. Il se fabrique sous une pression artificielle. On peut dire par exemple que les grandes étendues de champs, de cultures, de diverses, hein, qui servent à faire de l'agrocarburant, rentrent dans un mécanisme de la spéculation complètement, hein, presque exclusivement, et n'ont pas beaucoup de rapport avec une économie telle que on pourrait dire qui rendrait un service à l'humanité en fait. Donc ça fabrique des paysages, alors je vais montrer ça. Et puis la question du désendettement ou de l'endettement, forcément on sait bien que aujourd'hui ceux qui sont pris dans une mécanique de cette économie, alors elle, relativement réelle dans le sens où il y a une production, ce sont les exploitants agricoles, ils sont réduits à l'esclavage, en esclavage par l'économie qui, elle, n'est pas l'économie réelle, qui est l'économie virtuelle. Ils le sont par un processus d'endettement. Et c'est difficile pour eux de sortir de l'endettement. Et il se trouve qu'étudiant une vallée dans la Creuse, là, c'est il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, un groupe d'étudiants avec lesquels je travaillais, puisque nous faisons régulièrement un atelier qui s'appelle l'atelier Grand Espace Rural, en troisième année. Et l'un des 10 groupes a proposé le terme, donc je leur emprunte ce terme-là. Les étudiants du paysage se sont saisis de cette question-là. Et quand on a fait un petit atelier dans une région qui est à la limite de la Creuse et de l'Allier, une région dont le conseil général de la Creuse ne sait que faire, une vallée entière, où il y avait eu un projet de barrage abandonné, remis sur le tapis, puis réabandonné, enfin bref, 40 ans de discussion, les gens étaient partis. Pour un franc symbolique, EDF rend ce territoire non inondé au conseil général, qu'il récupère une vallée vide. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde dans la Creuse, mais là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on en fait, voyez? Et là, ils se sont intéressés à comment réanimer une région. Et il y a un groupe qui a proposé quelque chose qui s'appelle le paysage du désendettement. Et c'est, je ne vais pas vous en parler parce que ce serait à eux d'en parler, mais je les ai avertis que j'allais simplement les citer parce que je trouve que cette question-là, dire le paysage du désendettement, ça signifie quelque chose de précis et d'articulé sur des principes qui ne sont pas ceux par lesquels on aborde habituellement le paysage. Pas du tout. Et là, c'était donc quelque chose de nouveau. Et sur cette vallée, ils avaient effectivement fait des propositions qui étaient assez modestes, qui remettaient en scène des capacités de l'artisanat de s'installer. Tout ça à travers un circuit. Il y avait une question de parcours dans cette vallée complètement abandonnée, des mises en coopérative, des actions sur les végétaux. Alors, je pense que ce serait bien de les solliciter directement pour les gens que ça intéresse et leur demander le détail de leur vision du paysage désendetté par rapport à celui qui est endetté. La spéculation se fait sur tout. Pour faire vivre un très petit nombre de gens, avec une économie extrêmement douteuse qui correspond typiquement à celle de l'endettement. L'endettement, dans ce cas-là, c'est ces exploitants qui sont dans l'obligation d'avoir des machines surdimensionnées, de passer des produits coûteux et de faire construire des hangars et des choses comme ça pour lesquelles ils s'endettent. Et la manière de les tenir, c'est précisément ça. L'alternative à l'endettement, c'est l'investissement. L'investissement dans un système qui n'est pas basé sur la spéculation, mais sur l'économie réelle, précisément. Il y a des très bons exemples qui sont donnés par l'économiste Bernard Lietard, qui parle des placements à long terme et non à court terme, qui donne des exemples aussi sur les monnaies fondantes, enfin j'en parlerai tout à l'heure. Et il y a la possibilité de rentrer dans ce processus-là au niveau rural et dans le cadre paysager qui est celui sur lequel on travaille aussi, par tout ce qui est entre guillemets bio. On sait que ce sont des exploitations de dimension relativement modeste, dont la rentabilité est très grande, et pas forcément les rendements, mais la rentabilité, c'est pas la même chose. Et qui, du coup, fabrique un paysage qui est lui-même modeste, mais qui permet de vivre sans une charge d'endettement telle qu'on est rendu esclave, parce que complètement pieds et poings liés par le système de l'endettement. Je voudrais juste donner un exemple que donne Bernard Lietard, parce que je trouve intéressant, et qui s'appelle le mécanisme de la monnaie fondante. Vous allez me dire, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le paysage, avec le jardin? Pour moi, oui. Et d'ailleurs, Bernard Lietard se sert d'un exemple de plantation de pins et de plantations qui sont des plantations à court terme et des plantations de chênes. Cette mécanique-là, ce principe de la monnaie fondante, c'est vraiment l'anti-spéculation mécaniquement installée. Et c'est les Égyptiens qui avaient mis ça au point. Et vous récoltez votre champ de blé, on va en voir, et vous avez un stock que vous allez placer au temple. À l'époque, c'était la banque, le temple. Alors, on mettait ça au temple, bon. Et puis, un an plus tard, ça correspond, donc on vous donne un ostracone, qui est un morceau de céramique sur lequel il y a la contre-valeur avec laquelle vous pouvez aller acheter ce que vous voulez. Alors vous avez fabriqué un paysage d'un côté, vous retirez de la monnaie de l'autre, vous avez produit quelque chose qui va se commercialiser, etc. Et puis, vous n'utilisez pas tout ça et vous venez récupérer finalement vos sacs. Alors, vous en avez mis 10, on vous en rend 9, parce qu'il y a un droit de stockage. La spéculation se fait à l'envers, votre monnaie a fondu. C'est intéressant comme processus. Et il y a eu historiquement plusieurs fois dans l'histoire de nos civilisations des moments, des temps où on a installé ça, en particulier en Europe au XIIe siècle, au moment des cathédrales. Le court et le long terme, pour nous, nous ne travaillons pratiquement que dans un terme qui n'est absolument ni celui des gens qui jouent à l'argent, ni celui des gens qui font de la politique. On n'est aucune dans ces deux échéances-là. Je proposais pour l'inauguration du musée du Quai Branly, qui devait être il y a 5 ans de ça, que, ma foi, on pourrait le faire 5 ans plus tard, quand les arbres auraient un peu poussé, quand le jardin aurait un peu d'allure. Et puis finalement, je me suis ravisé, j'ai dit non, on va le faire, l'inauguration, dans 50 ans, parce que j'ai planté des chênes. Bon, là, ils m'ont dit... Mais c'est quand même ce que je pense, d'une certaine façon. Donc on est dans un autre parcours, évidemment, complètement. Il y a de toute façon une marchandisation de tout, une tentative de marchandisation de tout. Mais l'urgent aujourd'hui n'est pas tant de rentrer dans un processus qui donnerait préséance à l'économie, absolument. C'est plutôt de forger un projet politique dans lequel l'économie viendrait se mettre au service de ce projet. Ça veut dire une pensée qui est orientée certainement par ce que l'on sait de l'écologie et des urgences à prendre. Mais ça n'empêche pas que l'on doit réfléchir à trouver un nouveau modèle économique. Il se trouve simplement que pour l'instant, nous n'avons aucune proposition au plan politique et aucune réelle proposition au plan économique, puisque la seule règle, c'est ça rapporte ou ça rapporte pas. Ça, c'est pas ni un projet, ni une économie pensée. C'est rien, en fait. C'est juste, ça rapporte, on le fait. Ça ne rapporte pas, on le fait pas. Le bord du lac Titicaca, les Indiens Ouros, vous savez, vivent sur des îles qui sont dites flottantes et qui se posent quand le lac baisse, qui voyagent quand le lac monte. Or, il se trouve que ces gens-là utilisent la totalité tout ce qu'ils fabriquent plutôt vient d'une seule plante et ils n'ont pas d'autres ressources. C'est incroyable, c'est donc une diversité très réduite. Là, ils fabriquent leur architecture, ils fabriquent leurs embarcations, mais aussi ils cultivent l'humus qui provient de la dégradation de ce jonc qui permet justement aux îles de flotter, l'accumulation de ces joncs. Et ils cultivent en particulier les nombreuses variétés de pommes de terre qui sont toutes originaires de cette région-là. Ce qui est intéressant, évidemment, là-dedans, au-delà de la très grande pauvreté à tout niveau, c'est le fait qu'il y a un recyclage, et je reparlerai de ce recyclage total, puisque de ces matériaux qui sont des fleurs, on en fait quelque chose qui est une architecture et qui finit par être de l'humus et qui revient à de la nourriture et ainsi de suite. Cette question-là du recyclage est une question cruciale probablement pour demain, avec des matériaux, des civilisations et des technologies tout à fait différentes. L'évolution du paysage dépend bien sûr toujours de la façon de l'intervention de l'homme sur son territoire. Ça dépend des forestiers, ça dépend des agriculteurs, mais ça dépend aussi des urbanistes, ça dépend des autoroutiers, ça dépend de l'économie de la voiture, ça dépend d'un grand nombre de choses de ce genre-là. Sur la question de la marchandisation, on s'aperçoit que les lobbies qui, eux, n'abandonnent pas l'économie actuelle, l'économie dévastatrice, sont allés très loin, puisque dans les derniers accords de Nagoya, il est question véritable. Il y a une entente de 193 pays, ce qui est inouï. C'était le fiasco sur le climat. Là, c'est une réussite sur la diversité, car il s'agit soi-disant de préserver la diversité. En réalité, on lui donne un prix. Et on se dit, c'est le protocole des accords de Nagoya. De Nagoya, hein, j'ai bien dit pas Kyoto. Hein. Nagoya, c'est récent, c'était en novembre 2010. Et on se dit, eh bien, on partagera les bénéfices qui sont issus de la marchandisation, enfin de la commercialisation, de la diversité de chaque pays. Donc l'idée du partage est une bonne idée. Mais l'idée que l'on donne une valeur en vue de la mettre sur le marché, et dans un système qui est totalement dérégulé, c'est le processus même de la spéculation en route sur quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas menacé par ça. Et là maintenant, ça va l'être. Donc ce prétexte de préserver la diversité, en fait, va aboutir vraisemblablement au contraire.
De quelle manière la ville d'aujourd'hui, qui est soumise à des logiques d'optimisation de l'espace, peut réintroduire la nature dans son environnement urbain ?
Alors la ville peut réintroduire la nature dans son environnement de toutes les façons, toutes sortes de façons. Il n'y a pas de refus de la nature de venir dans la ville. Elle est d'accord, il suffit qu'on l'accepte. Mais si évidemment on met des poisons, des désherbants partout, elle y viendra avec beaucoup de difficultés ou pas du tout. On peut très bien imaginer que des toits soient recouverts, il y en a déjà, par une végétation qui non seulement est isolante, mais peut-être productrice. On sait que certains animaux sont complètement d'accord pour vivre en osmose avec la ville, même la ville la plus dense. Il y a des insectes qui participent à ça, même certains mammifères et les oiseaux. Aujourd'hui, on récolte du miel à Paris, qu'on appelle le miel béton, et qui est un miel de bonne qualité. C'est un peu troublant, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que ce ne serait pas la ville qui finirait par protéger la diversité menacée dans l'espace rural, à cause des pesticides, à cause de tout ça. Et en effet, on sait pas, c'est le cas des abeilles. Bon, tous les animaux et toutes les plantes ne peuvent pas pousser dans des conditions urbaines. On voit mal un sanglier ou un cerf s'égarer dans les rues de Marseille, ce serait étonnant. Mais enfin, il y a des renards hein, qui approchent, il y a des animaux de ce genre. Donc la nature, c'est plutôt notre niveau d'acceptation de cette nature dans la ville, c'est tout. C'est pas autre chose, lui faire de la place. Je montrerai tout à l'heure des images où on voit dans un quartier de Lyon comment une association à la Guillotière a fait des petits trous dans la rue et il y a des plantes partout et c'est très, très intéressant. Ça, c'est un paysage qui est fait de façon un peu sauvage et gratuit, mais c'est très beau, ça a beaucoup de charme et ça marche surtout. Ça marche, les plantes, elles poussent. Donc ça veut dire que c'est possible.
Vous écoutiez Gilles Clément à l'occasion de sa venue à Marseille le 30 mars 2011. Pour continuer la réflexion, son dernier ouvrage, Thomas et les voyageurs, esquisse du jardin planétaire, est disponible aux éditions Albin Michel. Pour un aperçu de ses réalisations, rendez-vous sur son site internet www.gilclément.com et dans la région, ne manquez pas de faire un tour dans le jardin du Rayol qui se trouve à une petite centaine de kilomètres de Marseille.